Et le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. L'armée en France n'est en aucun cas chargée du maintien de l'ordre. Déclaration tout à l'heure en marge du sommet européen d'Emmanuel Macron qui dénonce un faux débat absolu en ce qui concerne la mobilisation de l'armée demain en France. Le chef de l'État essaye surtout de faire redescendre la pression à la veille de l'acte 19 des Gilets jaunes. Nous irons à Bruxelles dans ce journal où s'est tenu un sommet européen avant tout consacré aux relations Europe-Chine au moment où Xi Jinping, le leader chinois, est en tournée en Europe. C'est Angélique Bouin qui nous attend en direct du bureau de Radio France à Bruxelles. Et puis nous irons en Algérie, où la contestation contre le président Bouteflika ne faiblit pas. Vous entendrez que les manifestants remettent souvent en question également le rôle de la France aux côtés du régime. Et puis à la fin de ce journal, l'enquête de la cellule investigation sera consacrée à l'influence des médias russes RT France et Sputnik, notamment dans la vie politique française. Faire intervenir l'armée demain samedi pour assurer la sécurité en marge de la 19e manifestation des Gilets jaunes, était-ce vraiment une bonne idée? Considérant les risques, même s'ils sont limités, qu'une telle décision peut éventuellement représenter, et surtout, considérant le symbole politiquement très fort ainsi envoyé par le gouvernement, il était quoi qu'il en soit évident que cette idée ferait monter encore un peu la température. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
À la veille d'un nouvel accès de fièvre attendu demain entre les Gilets jaunes et les autorités, et alors que les interdictions de manifester commencent à être prises à Paris, aux Champs-Élysées, à Nice, à Toulouse, place du Capitole, de nombreuses voix politiques continuent à reprocher au gouvernement de jouer la carte du pire ou au moins de l'escalade. C'est par exemple Jean-Luc Mélenchon exhortant lyrique tout à l'heure les militaires à ne pas tirer. Emmanuel Macron dénonçant de son côté de la mauvaise foi pour jouer à se faire peur.
Oui, pour le président, tout cela relève de la fausse polémique. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré tout à l'heure à Bruxelles.
Il faut que tout le monde garde beaucoup de calme. Et j'ai vu beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'approximations. En aucun cas, l'armée dans notre pays est en charge du maintien de l'ordre et de l'ordre public. C'est un faux débat absolu. Et donc ceux qui jouent à se faire peur ou à faire peur à certains ont tort.
Une pique directement adressée à la France insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon dénonce depuis le début cette mobilisation des militaires de Sentinelle et réclame depuis ce matin des explications du Premier ministre. Comme ses collègues, le député insoumis Hugo Bernalici a bien du mal à croire l'exécutif.
Quand vous mettez un militaire aux abords des institutions dans le contexte d'une manifestation, c'est bien pour faire du maintien de l'ordre. Alors vous pouvez me dire que la probabilité qu'il rencontre des manifestants ou que des manifestants arrivent jusqu'à lui soit extrêmement faible, mais la probabilité, elle existe. Et je n'espère pas qu'on puisse être confronté au cas de figure où on se retrouve avec des manifestants virulents, violents ou déterminés face à des militaires de l'opération Sentinelle qui n'auront pas 36 000 solutions face à eux, soit ils devront reculer et subir, soit ils devront faire les sommations et tirer.
Et les propos du gouverneur militaire de Paris, Bruno Le Ray, tenus ce matin sur France Info sur les règles d'engagement des soldats, vont dans le même sens.
Les consignes sont extrêmement précises, ils ont différents moyens d'action pour faire face à toute menace. Ça peut aller jusqu'à l'ouverture du feu, si leur vie est menacée ou celle des personnes qu'ils défendent, effectivement.
Ce geste, ouvrir le feu, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, exhorte l'armée à ne pas le faire. Il appelle par ailleurs les citoyens à être très nombreux demain dans les rues, aux côtés des Gilets jaunes et à user de méthodes pacifiques pour qu'aucune provocation ne soit possible.
Merci Rosalie Lafarge. En amont de cette journée de demain, deux avocats, William Bourdon et Vincent Brengart ont écrit au défenseur des droits Jacques Toubon. Ils lui demandent d'essayer d'obtenir des garanties du gouvernement pour éviter tout risque en matière militaire pendant les manifestations au sujet de la mobilisation de l'armée demain pour protéger les institutions et les bâtiments sensibles et non pas pour du maintien de l'ordre au contact des manifestants. Ce sujet est visiblement tellement sensible que, d'après nos confrères de RTL, le chef d'état-major des armées lui-même, le général François Lecointre, n'avait pas été averti en amont de l'annonce de cette décision. Bonsoir Audrey Dumain.
Bonsoir.
Il n'est évidemment jamais bon signe quand en matière sécuritaire les choses se passent ainsi, d'autant que la confusion n'est jamais la meilleure amie du militaire.
Oui, et pour revenir au point de départ, mercredi, Benjamin Griveaux annonce la mobilisation renforcée des forces sentinelles sur des points fixes et statiques demain, sans plus de précision. C'est là que la polémique enfle car il laisse penser que des manifestants pourraient se retrouver face à l'armée, à ses militaires. Finalement, Emmanuel Macron, tout comme le gouvernement, tente d'éteindre le feu. Les militaires n'assureront en aucun cas le maintien de l'ordre, vous l'avez dit, mais la polémique fait son chemin. Bénédicte Chéron, historienne spécialiste des relations entre les armées et la société.
En fait, ce dispositif n'a rien de nouveau par rapport à ce qui existe depuis que l'opération Sentinelle existe, depuis janvier 2015. Il y a eu de nombreux moments où, parce que les forces de l'ordre étaient sollicitées dans un moment un peu événementiel, on demandait aux militaires de donner un peu davantage pour faire des patrouilles ou des gardes pour se prémunir de la menace terroriste. Et là, la finalité a bien été clarifiée par l'autorité politique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du maintien de l'ordre. En revanche, la cause du déploiement demeure bien cette question liée aux gilets jaunes et à la sursollicitation des forces de police.
Et cette confusion entre armée et maintien de l'ordre pourrait bien être le détonateur demain.
Pour des manifestants un peu excités ou qui n'auraient pas entendu les messages plus clairs, ils peuvent avoir en tête qu'effectivement, se trouver face à un militaire, c'est se trouver face à l'autorité de l'État, et dans un contexte où l'autorité de l'État est particulièrement contestée, eh bien les militaires font partie des représentants de cette autorité de l'État. Ce risque n'a probablement pas été correctement anticipé.
Reste à savoir s'ils se retrouveront face à des manifestants. Demain, l'état-major a assuré que les sites sensibles protégés ne seraient pas à proximité des manifestations.
Merci Audrey Dumain. De nouvelles manifestations de la jeunesse pour le climat aujourd'hui. Plus modestes, cela dit, que la semaine dernière à Paris, Strasbourg, Rennes ou d'autres villes grandes et moyennes, lycéens et étudiants ont manifesté pour continuer à pointer l'inaction climatique du gouvernement. Et comme une tragique illustration, la lutte contre le réchauffement était ce matin à l'agenda des dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles. Mais les débats sur cette question ont visiblement tourné court, Emmanuel Macron déplorant des conclusions éminemment insuffisantes. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Notre correspondante permanente à Bruxelles, ce sommet européen était avant tout, il faut le dire, consacré au Brexit et aux relations Chine-Union européenne au moment où Xi Jinping, le numéro un chinois, est en voyage en Europe. Il est arrivé hier à Rome et sera demain et sera dimanche en France. Si on en croit la tonalité des déclarations en marge du sommet tout à l'heure, plus question pour les Européens de courber les Chines face à l'empire du milieu. Le temps de la naïveté européenne est révolu, a par exemple lancé tout à l'heure Emmanuel Macron.
Oui, et l'exemple qui a été cité ici, c'est le marché des panneaux solaires, une industrie européenne qui a été détruite par l'expansionnisme chinois. La Chine s'est jouée de nos divisions, a déclaré également tout à l'heure Emmanuel Macron, pour qui ce réveil est donc nécessaire. Au cours de ce sommet, la France a déployé beaucoup d'énergie pour convaincre ses partenaires d'amorcer ainsi une politique européenne de souveraineté économique. Les 27 étaient divisés sur le sujet. L'Italie doit par exemple signer seule un protocole d'accord avec les Chinois sur le méga projet d'infrastructure des nouvelles routes de la soie. L'Union doit préserver ses intérêts à la lumière des pratiques déloyales des pays tiers, est-il clairement écrit dans le communiqué final ce soir. Sans toutefois citer directement Pékin, les Européens ajoutent qu'ils veilleront à assurer une réciprocité en matière de marché public avec leurs partenaires économiques et rappellent la nécessité de filtrer les investissements étrangers qui menacent la sécurité. Dimanche, vous l'avez dit, Emmanuel Macron reçoit le président chinois Xi Jinping à Beaulieu-sur-Mer près de Nice. Geste tout à fait inédit, il a invité la chancelière allemande Angela Merkel, ainsi que le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a participé à cette rencontre. L'Europe, dit-il encore, doit offrir une image unie.
Merci Angélique Boin, en direct du sommet européen de Bruxelles pour France Culture. En matière économique maintenant, une nouvelle série de chiffres est venue ce matin confirmer des craintes déjà bien souvent ressenties et exprimées. L'activité économique dans la zone euro ralentit. Elle est même en berne depuis quelques mois déjà. Des chiffres qui sont préoccupants car ils concernent l'activité manufacturière. Ils reflètent la santé du secteur industriel qui se contracte à l'échelle européenne pour la première fois depuis 6 ans. Les explications et les détails avec Anne Lorchouin.
Ces indicateurs issus d'enquêtes auprès des directeurs d'achat des grosses entreprises européennes viennent confirmer une tendance observée depuis la fin de l'année dernière. Les performances économiques de la zone euro sont mauvaises depuis le début de l'année, avec notamment une contraction sans précédent depuis 2013 du secteur de l'industrie en Allemagne, pourtant moteur de l'industrie européenne. L'industrie allemande qui s'est mise à licencier, ça n'était pas arrivé depuis 3 ans. Alors qu'est-ce qui explique cette morosité? Principalement des carnets de commandes à l'export, en berne, ça vaut pour l'Allemagne, mais aussi pour les autres pays de la zone euro, l'Italie en premier lieu, et puis la France. Paris a souffert notamment des mauvais chiffres de la production automobile, une baisse de régime industriel qui se traduit aussi par une baisse de régime dans le secteur des services. Les industries européennes subissent à la fois le ralentissement de la croissance dans la zone euro, mais aussi le contre-coup des mesures protectionnistes décidées par les géants américains et chinois. Le prix des matières premières est en cause également. Le pays pétrole, mais aussi l'acier et l'aluminium qui ont vu leur prix grimper ces derniers mois. Les analystes ne parlent pas encore de récession, mais les signaux ne sont pas encourageants. La BCE l'a bien compris, qui a décidé de continuer sa politique monétaire accommodante.
Anne-Laure Chouin. Une compagnie aérienne indonésienne, Garuda, vient d'annoncer l'annulation d'une commande auprès du constructeur Boeing. Elle concerne cette commande de 49 appareils 737 MAX 8. Cet appareil qui est impliqué dans deux crashs survenus en moins de 6 mois à Jakarta et Addis Abeba. Garuda remet en cause la fiabilité de l'appareil et invoque la perte de confiance de ses clients en cet avion. Le président américain Donald Trump vient d'affirmer, c'était il y a quelques minutes, que le groupe État islamique était vaincu à 100% en Syrie. Le califat territorial de l'État islamique a été éliminé, pour sa part, a abondé la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. On rejoint tout de suite depuis Washington notre correspondant Grégory Phillips.
Dans l'avion qui amène Donald Trump en Floride, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, va voir les reporters qui accompagnent le président et elle leur apprend que selon le ministère américain de la Défense, l'État islamique est vaincu à 100% en Syrie. Selon cette même porte-parole, le califat est désormais éliminé. Quelques minutes plus tard, Donald Trump atterrit à Palm Beach et montre à ses supporters qui l'attendent à la descente de l'avion une carte en rouge, les territoires contrôlés par l'État islamique en 2016, au moment de son élection. Plus bas, la même carte où le rouge a disparu. Puis sur Twitter, le président des États-Unis écrit « L'État islamique, ce sont des losers, des perdants qui respirent à peine, désormais ». Alors évidemment, l'annonce de la Maison-Blanche devra se vérifier sur le terrain. En janvier encore, le directeur national du renseignement expliquait devant le Congrès américain que certes, l'État islamique a perdu le contrôle de ses territoires, mais qu'il conserve encore des milliers de combattants dispersés en Irak et en Syrie.
Grégory Phillips, en provenance également de la Maison-Blanche, un peu plus tôt dans la semaine, cette annonce de la volonté de Donald Trump de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan ne passe décidément pas et provoque de nombreuses réactions diplomatiques. L'Union européenne, par exemple, n'envisage pas du tout, elle l'a fait savoir, d'emboîter le pas au président américain. Christian Chéneau.
Le plateau du Golan, ce sont 1200 km² qui furent le théâtre en 1967 et 1973 de violents combats entre les armées syriennes et israéliennes lors des guerres israélo-arabes. Une région hautement stratégique, occupée, puis annexée unilatéralement par Israël en 1981. Une annexion qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Des casques bleus de l'ONU y sont d'ailleurs toujours déployés sur une ligne de cessez-le-feu. Dominé par le mont Hermon, le Golan, c'est d'abord une position militaire exceptionnelle qui surplombe la vallée du Jourdain et la plaine de Damas. C'est surtout un château d'eau qui alimente le lac de Tibériade et le Jourdain. Quelques mois avant la mort d'Hafez el-Assad, en juin 2000, des négociations sur la restitution à la Syrie de cette région occupée par Israël avaient achoppé notamment sur la question de l'eau. Des colonies juives ont été implantées et développées dans cette zone sensible, considérée par Damas comme son Alsace-Lorraine.
En Algérie, un mois déjà de manifestations populaires gigantesques pour dénoncer l'obstination du clan Bouteflika à vouloir rester au pouvoir. Et en ce vendredi, la mobilisation semble ne pas faiblir. Des centaines de milliers de personnes défilent, notamment à Alger, avec partout des chants, des danses, des panneaux et des affiches pour essayer de renverser le pouvoir en place. Des affiches qui bien souvent expriment la crainte d'une ingérence extérieure dans les affaires algériennes et notamment en provenance de France. Waïba Filali est à Alger.
Des pancartes, des banderoles comme « Macron, occupe-toi de tes oignons » ou encore « SMS à Macron et les autres, nous sommes un peuple millénaire et vaillant ». Redouane, 23 ans, a déployé une immense banderole où il a écrit « Non à l'ingérence de la France ».
On ne veut pas qu'il rentre dans nos affaires, sinon on deviendra comme la Syrie, la Libye ou le Soudan. On ne le veut pas, on veut s'occuper de notre développement. On va s'en charger et le faire pour nous, de la même manière que quand on a réussi à avoir notre indépendance en 62.
Khera, 70 ans, est elle aussi venue manifester avec sa pancarte plastifiée. Pas d'ingérence étrangère, pouvoir dégagé.
Ils ont internationalisé notre lutte. Non, c'est une lutte interne, propre aux Algériens. On n'a pas besoin ni de la Russie, ni de l'Italie, ni de la France, encore moins de la France.
Pas besoin de l'aide étrangère pour reconstruire le pays, dit-elle.
On a des potentiels. Des ingénieurs, des politiciens, de tous bords. Il y aura une bonne relève.
On retrouve également d'autres pancartes hein, dans le cortège, comme par exemple « Macron, occupe-toi de tes gilets jaunes ».
Reportage de Waïba Filali à Alger. Retour en France et au grand débat national qui n'en finit pas de se terminer sous forme de conférence citoyenne régionale. C'est sur un campus dédié au développement durable à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence qui est organisé depuis cet après-midi. La conférence citoyenne régionale destinée aux jeunes, ils sont 95, âgés de 18 à 25 ans, à avoir accepté de venir participer à cette conférence. Ils ont été tirés au sort. Le ministre de la Jeunesse, Gabriel Attal, a fait d'ailleurs un bref passage juste avant le début des travaux tout à l'heure, et le plus jeune membre du gouvernement a été interpellé à cette occasion par Hugo, 20 ans, qui est étudiant en économie à Paris. Enregistrement de l'échange par Anne Fauconberg.
Vous en pensez quoi de la DP? Parce que par exemple, sur le... Ça, c'est exactement la même question. C'est, je sais pas, enfin, quand on lit Le Monde, on se dit, a priori, aucune raison, privatiser ADP. Enfin, du coup, votre avis? Parce que moi, j'ai pas. En même temps, je prétends pas du tout avoir le fin mode de l'affaire. Enfin, j'en sais rien. Mais
Moi, je prétends pas non plus être un spécialiste de ces questions. Moi, je suis pas en charge de ça au gouvernement. En revanche, j'ai totalement confiance dans le plan et dans les motivations de cette concession qui a été décidée. Parce que l'objectif, c'est de récupérer des fonds pour permettre l'investissement, notamment l'investissement dans les start-up et pour faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui se créent davantage, qui soient davantage soutenues en France. Et c'est vrai que
récupérer des fonds publics pour l'État pour qu'ils puissent investir ou pour ADP puisse investir.
Non, c'est créer un fonds d'investissement pour pouvoir soutenir des petites entreprises et des start-up. Et c'est vrai que moi, que l'État se décharge, entre guillemets, d'activités de duty-free, etc., et commerciales dans les aéroports, ça ne me dérange pas du moment que c'est l'État qui continue à gérer les frontières, les contrôles et la sécurité.
Discussion prise sur le vif par notre envoyé spécial Anne Fauconberg à Aix-en-Provence. 18h16 sur France Culture, la suite du journal avec, comme chaque vendredi, l'enquête du service investigation de Radio France. Enquête consacrée ce soir à l'influence des médias russes dans la vie politique française.
Il y a deux organes de presse que je refuse dans la salle de presse de l'Élysée. C'est Russia Today et c'est Sputnik, mais parce que je considère que ce ne sont pas des organes de presse.
Voilà, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, expliquant récemment la décision prise de bannir Sputnik et RT France de la salle de presse de l'Élysée. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir.
Le pouvoir reproche à ces médias de rouler pour le Kremlin en véhiculant parfois de fausses nouvelles. Est-ce que ces accusations tiennent la route ?
Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces médias, relativement récents en France, ont un objectif bien clair, celui d'appuyer là où ça fait mal dans les démocraties occidentales. On ne fait plus l'éloge de la Grande Russie comme autrefois, mais on met l'accent sur les défauts des autres, explique Damien Lichia, expert chez IDS Partner.
On n'est plus à l'époque soviétique où on avait, grosso modo, une propagande stricto sensu. Ils ont basculé sur une approche qui vise davantage à mettre l'emphase sur les éléments problématiques qui innervent des sociétés. Donc on va mettre la focale là où ça fait mal pour montrer que finalement les sociétés libérales sont également fracturées.
Et dans ce cadre-là, les gilets jaunes sont du pain béni pour RT France, la télévision officielle russe. Et là, largement accompagné le mouvement, ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, Éric Drouet, son militant le plus médiatique, salue sa couverture.
Alors quel est l'intérêt pour le Kremlin de mettre l'accent comme ça sur les failles de nos démocraties, Philippe ?
Eh bien, j'ai posé cette question à Nikolaï Kobliakov, président de l'association Russie Liberté. Et selon lui, montrer que ça marche mal ailleurs permet de légitimer le pouvoir du président russe.
Poutine utilise
les images
et les vidéos de Paris, des autres villes françaises, pour expliquer à tous les Russes que la liberté d'expression pour la Russie, c'est un danger.
Non ? C'est un danger.
C'est un danger, oui.
Donc il y aurait un agenda politique derrière tout ça, d'après vous, Philippe. On vient de parler de médias officiels, mais il semble que la Russie déploie aussi une activité souterraine.
Absolument. Il existe des fermes à trolls, comme on les appelle, des lieux où des employés fabriquent de fausses nouvelles, de faux comptes, et les démultiplient sur Internet. La plus célèbre se trouve à Saint-Pétersbourg. Elle s'appelle IRA. Et elle est citée dans un rapport officiel du Quai d'Orsay et de l'école militaire dont nous avons fait lire cet extrait.
L'agence de recherche Internet russe IRA est une entreprise financée par le Kremlin dont l'existence a été révélée en 2013 par des journalistes russes. Elle emploie des centaines de jeunes rédacteurs travaillant 12 heures par jour et formés aux positions du Kremlin sur tous les débats clivants à exacerber parmi lesquels les thèmes du racisme, des armes à feu, de l'immigration.
des thèmes largement exploités lors de la présidentielle américaine en 2016, mais en France, rien ne dit qu'elle soit à la manœuvre. En revanche, lors de la crise des Gilets jaunes, on a vu apparaître 200 faux comptes Twitter liés à ce qu'on peut appeler la russosphère. Une ONG américaine a étudié ces comptes de près. Mais pour Kevin Limonier, chercheur à l'IHEDN, il faut se garder de toute conclusion hâtive.
La grande question est de savoir si les comptes dont parle ce rapport sont bel et bien des comptes que l'on peut attribuer à des agences russes qui mèneraient des opérations semi-clandestines de manipulation de l'information, ou si elles sont le fait de citoyens français qui trouvent, grâce aux médias russes et grâce à tout cet écosystème russe, une chambre d'écho.
Ce qui est sûr, c'est donc que la Russie agit et qu'on peut faire partie d'une sphère russophile sans être russe pour autant. Maintenant reste la question de l'efficacité de ces manipulations. Et là-dessus, le spécialiste François-Bernard Ruig, auteur du livre « Fake, la grande peur », reste réservé.
Il y a eu plusieurs études qui disent que l'effet des fausses nouvelles sur les élections est nul, et en tout cas qu'il ne touche que des super convaincus qui se renforcent dans leurs convictions parce qu'ils sont à la chasse de propos diffamatoires contre l'adversaire.
Donc peu d'impact a priori.
Reste qu'à la veille de nouvelles élections européennes cette fois, beaucoup redoutent un nouvel afflux de fausses nouvelles et de fake, encore plus indétectables, et donc une montée en puissance possible de cette influence russe.
Merci Philippe Reltien, votre enquête est à retrouver sur notre site franceculture.fr. Le temps demain encore largement ensoleillé, des brumes tout de même dans le nord-ouest et quelques nuages au nord de la Seine, les températures seront stables.